Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
J'ai peur d'avoir le cœur sec, dit Suzanne, 15 ans, dans le film de Maurice Pialat, À nos amours. Phrase clé pour comprendre la trajectoire d'un personnage qui s'abandonne dans les bras de plusieurs hommes, par peur sans doute d'en aimer véritablement un seul. Le film, sorti en novembre 1983, était le sixième long-métrage de Pialat et ce fut aussi son premier grand succès. Suzanne, c'était Sandrine Bonner dans son tout premier rôle au cinéma. Dans le rôle de ses frères, Dominique Besnéard et Cyril Collard. Dans celui de sa mère, Evelyne Kerr, et dans celui de son père, Pialat lui-même. Deux semaines après la sortie du film, Claude Jean-Philippe le recevait dans le cinéma des cinéastes. L'entretien est touchant parce que malgré le succès public et critique, Pialat y raconte surtout ses regrets, ce qu'il trouve inabouti dans le film et qu'il ferait différemment si c'était à refaire. Mais comme il le dit joliment lui-même dans l'émission, lorsque l'on veut refaire quelque chose, c'est que l'on y tient encore. Le cinéma des cinéastes, À nos amours de Maurice Pialat, première diffusion sur France Culture le 27 novembre 1983.
Ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût.
Au cinéma, les artistes, ce sont les acteurs, les actrices. Je ne pouvais pas laisser passer cette semaine et ce numéro du cinéma des cinéastes sans saluer la mémoire du marquis de la Chesnée, à savoir Marcel Daliot, qui nous avait rendu visite voilà quelques années au cinéma des cinéastes, avec qui nous avions eu une conversation éblouissante, parce qu'il était éblouissant. Je me souviendrai toujours de son retour des États-Unis et quand je me suis retrouvé devant lui, c'était il y a longtemps, j'écrivais encore à Télérama, c'était donc dans les années 60. Et
64, je crois.
Oui, enfin, il était revenu par là, et je m'attendais à ce qu'à trouver un acteur, bon, comme les autres, mais ce n'était pas du tout un acteur comme les autres. Il avait une façon de parler de Renoir, il avait une façon de parler de John Ford, il avait une façon de parler de Sternberg, il avait une façon d'évoquer le tournage du Port de l'Angoisse avec Bogart et Bacall, tout à fait stupéfiante. Il était d'une vitalité folle. C'était vraiment l'acteur à l'état naissant, si on peut dire, au prix d'ailleurs d'un cabotinage absolument effréné, mais dont il jouait d'ailleurs, dont il n'était absolument pas la victime, puisque au contraire, il en faisait une sorte d'arme merveilleuse, et on sentait un désir de... le même désir que Calvero, où à bout du compte, qu'on ferait tout le meilleur hommage à Daliot, c'est encore d'attendre de voir Limelight en VO au Ciné-Club dans deux semaines, puisqu'après tout, c'est ça, je veux dire que les acteurs... survivent, hein, au sens le plus fort du mot, survivent comme surréalistes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus que la vie, et ce qui les fait d'ailleurs durer, parfois, type Chaplin, qui a duré parce que c'était le plus survivant de tous. Et Daliot a survécu jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, salut Marcel Daliot, et avec cette magie du cinéma, nous allons le revoir vivant dans ses films chaque fois que nous reverrons un film où il apparaît. D'ailleurs, cet hommage aux acteurs ne nous écarte pas vraiment du sujet de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de À nos amours et que je me trouve devant un des acteurs principaux du film, qui est Maurice Fiala, qui se trouve jouer un rôle dans le film, dans son propre film. Bon, alors, Maurice Fiala, j'aime autant vous dire, avant de vous laisser la parole, et j'espère qu'on ne vous la coupera pas, comme selon notre mauvaise habitude, mais avant de vous laisser la parole, je voudrais quand même vous dire à quel point je suis content de vous avoir soutenu depuis vos premiers films, parce que maintenant, j'ai l'impression que c'est la gloire et que ceux qui ont été avec vos films depuis le début en bénéficient d'une certaine façon. C'est-à-dire que on se dit, tiens, on avait raison de défendre la gueule ouverte en son temps. Bien, alors, on va essayer de parler de la façon la plus simple et la plus immédiate et la plus concrète. Moi, je voudrais savoir, le projet de À nos amours, je sais que c'est un projet ancien. Mmh. Alors, je voudrais savoir à quand il remonte et comment finalement le film a fini par se faire.
Oh oui, c'est très simple. C'est un scénario qui a été écrit par Arlette Langman en 1974, qui a longtemps porté le titre, enfin jusqu'au tournage de
Les filles du Faubourg, c'est ça.
Et que l'on avait essayé déjà de tourner en 74, on a essayé de le tourner avec Adjani. Ça s'est pas fait parce que c'était un peu tard. Elle, je crois qu'elle avait déjà tourné La Gifle, et c'était un petit peu un retour en arrière pour elle parce que le rôle, la fille était très jeune. Ça s'est pas fait. Bon, il y a peut-être pas eu beaucoup d'envie de part et d'autre, ça arrive. Je crois que quand un comédien, j'ai eu la même chose avec Girardot sur Nous ne vieillirons pas, quand un comédien ne tourne pas dans un film, c'est qu'il n'en a pas vraiment envie quand même. L'année suivante, j'ai essayé avec Des Inconnus. En 75, j'ai commencé la préparation, arrêté tout de suite parce qu'on n'arrivait pas à avoir un budget même indigent, je peux presque dire. On l'a repris en 76 avec une petite avance. On a eu une longue préparation. Curieusement, c'est invraisemblable, j'arrivais pas à réunir la distribution, parce que la différence entre Les Filles du Faubourg et À nos amours, qui entre-temps s'est appelée Suzanne, du nom justement de l'interprète principale, c'est que le film était plus long, il y avait une demi-douzaine de filles, dont au moins trois avec des rôles très importants. Et je sais pas, j'étais sans doute à côté de la plaque pour faire ma distribution, puisque je trouvais des filles très bien, mais je pense aujourd'hui avec le recul que c'était un prétexte, que j'avais peut-être pas vraiment envie de le tourner. Là, on avait un financement faible, mais ça permettait de le tourner. Et je sais pas pourquoi, je me suis enlisé pendant des mois dans ce problème de distribution. Et au dernier moment, j'ai changé de sujet. Je suis parti sur un dada que j'ai toujours et que j'enfourcherai peut-être quand même un jour, finalement, qui est ce scénario des meurtrières, là, des filles qui ont été prises en stop et qui ont tué le type qui les avait pris en stop. Et donc, en 76, ça s'est éteint comme ça. Comme les meurtrières, c'est peut-être un peu long, là.
Non,
comme les meurtrières ont été entrepris à la place des filles du Faubourg. Et puis alors là, ce qui est pire, arrêté en première semaine de tournage et pas repris, alors que je pensais évidemment que ça allait être repris. Ça a été un coup très dur. Je l'ai payé pendant plusieurs années, mais il fallait quand même essayer de raccommoder les morceaux, et on a essayé d'obtenir une avance supplémentaire comme les filles du Faubourg, et revenir aux filles du Faubourg. Les filles du Faubourg est un sujet long. On a essayé d'avoir auprès du centre une rallonge sur deux films, ce qui aurait justifié. On ne l'a pas eu. Mais néanmoins, on a continué pesamment, longuement, à essayer de remettre sur pied ce film pour ne serait-ce qu'il y avait des problèmes avec le centre, puisqu'on avait dépensé en préparation une grande partie de la somme qu'on avait. Je ne sais pas pourquoi, vous savez qu'en général, l'argent du centre, on ne l'a qu'au début du tournage. Je ne sais pas comment on s'était débrouillé. Nous, on l'avait eu avant et on l'avait bouffé en grande partie. Donc il fallait régulariser la situation. Et donc on a remis en fin 77-78 seulement, toujours ces malheureuses filles du Faubourg, qui étaient vraiment pourtant un scénario que beaucoup s'accordent à trouver superbe et qui traînait comme ça, dont personne ne voulait. On l'a remis en chantier et c'est devenu Passe-ton-bac, toujours par indigence de
moyens.
De moyens. Voilà, donc ça a fait Passe-ton-bac. Et puis, c'était tellement loin du scénario original que je pouvais toujours le retourner. Et, et donc, en 82... j'ai recommencé avec Les Meurtrières, j'ai de la suite dans les idées. À nouveau, Les Meurtrières, ça a posé des problèmes de distribution, difficulté pour trouver une Algérienne dans un des deux rôles principaux, et difficulté pour trouver quand même une certaine somme. Gaumont pourtant donne un avaloir important pour un film comme ça, mais faisant grise mine quand même, parce que le sujet leur paraissait vraiment trop dur. Un film voué sinon à l'échec, tout au moins avoir un petit succès, on pouvait pas espérer un financement même moyen. Et puis quand j'ai vu ces difficultés nouvelles, entre-temps, j'avais représenté sous le nom de Suzanne les filles du Faubourg à l'avance, où évidemment on a dit, entre autres, parce que c'est pas l'unique raison pour laquelle le film n'a pas eu l'avance, que je représentais toujours le même sujet, c'est tirer l'argent toujours avec le même sujet, et on ne l'a pas eu. Et cet argent nous a manqué cruellement parce que je l'ai en dette maintenant, enfin en dette supplémentaire, puisque j'étais bien obligé de m'endetter, puisque j'étais producteur, j'ai en dette supplémentaire cet argent du centre qu'on n'a pas eu, et vaille que vaille, on a décidé de partir quand même, toujours donc avec les filles du Faubourg, entre-temps devenues Suzanne, disons dégraissées, enfin raccourcies, et pourtant, c'était quand même encore un sujet qui était trop important, trop long, se déroulant dans une époque qui nous obligeait à une reconstitution, donc à des frais de décor et de costumes plus importants. Et en cours de route, très vite, dès la première semaine, j'ai bifurqué, j'ai laissé tomber le sujet des 60, et j'ai gardé tout ce que je pouvais garder pour le ramener aux années 80, et j'ai tourné donc ce qui est devenu Nos Amours.
Oui, non, c'est très important, parce que non, mais ça, c'est une histoire qui s'est déroulée dans la réalité, c'est-à-dire que l'élément de base pardonnez-moi, mais je vais au cinéma, je suis pas indiscret, je regarde pas, je m'intéresse pas du tout à la vie des gens, c'est pas mon boulot, mais il se trouve que j'ai vu les films de Claude Berry, donc je ne peux pas ne pas voir qu'il y avait une petite fille à côté du petit garçon dans les films de Claude Berry, qui d'ailleurs a un rôle très, 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 très petit, puisque elle semble être le, et puis, cet atelier de fourreur, et puis bon, le cinéma de papa, etc. Bon. Mmh. Donc, il est évident que c'est une histoire, au moins, en partie vrai.
Oui.
C'est pas tellement d'ailleurs son authenticité qui importe, puisqu'elle avait appartenu à une histoire vraie. On peut faire un chef-d'œuvre et on peut faire quelque chose de nul, donc ça a aucun intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est la période pendant laquelle ça se déroule. Par exemple, les réactions de la mère, et qui est la mère de Suzanne dans le film. Sa férocité, quand elle sent que sa fille couche avec des garçons, c'était beaucoup plus violent à la fin des années 50 qu'aujourd'hui. Enfin, il s'est passé 20 ans pendant lesquels les mères, enfin, on réagit avec moins de violence, quand même.
C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, ça devient certainement plus exceptionnel. Je crois que les parents ont été obligés de baisser pavillon. Personnellement, je pense que intérieurement, ils doivent pas être très, très différents de ce qu'ils ont toujours été. Seulement, ils font comme si, quoi. Je crois qu'en fait, La société permissive, pour moi, c'est une émission. C'est une émission parce que c'est pas vraiment une permission qui est naturelle. Elle est complètement artificielle. Elle est un temps, enfin, passager. Je pense que ça n'en reviendra quand même pas en arrière. Mais je pense que si aujourd'hui le film a un certain succès, ça éclaire quand même que les gens... Vous savez que ça marche toujours sur une certaine identification. Il y en a qui refusent le film parce qu'ils trouvent justement que cette mère en particulier, ce frère aussi, cette famille dans l'ensemble, est à la limite de la caricature. Et pourtant, il marche. C'est moi qui pose la question. Si ça devrait donc être rejeté, et ça ne l'est pas. Est-ce que c'est pas le signe? Je dis pas que dans toutes les familles il se passe la même chose. C'est peut-être pas aussi violent et aussi, on peut bien le dire. J'ai pas peur de parler mal de mes films, à la limite du guignol, du grotesque, ce que j'ai fait volontairement ou tout au moins que j'ai laissé faire. Mais est-ce que les scènes de famille, quand elles existent, ne sont pas toujours un peu à cette ressemblance?
Non, mais je crois qu'à partir du moment où on ferme le quatrième mur du théâtre, ça explose. Donc vous avez le courage de montrer ce qui se passe derrière le quatrième mur. Il est évident qu'on a tous vécu des scènes de ce genre.
Je crois que la jalousie de la mère, surtout dans le cas de la mère, et dans des milieux bourgeois où les gens, les enfants plus tard, les mères, Evelyne Kerr n'est pas âgée. Hein, le fils qu'elle a, elle est même jeune. Parce que il faut préciser que dans le film, elle a un fils qui a au moins 25 ans. Hein. Moi, je pense que toutes les mères, enfin, c'est, j'enfonce une porte ouverte, là, sont jalouses de leurs filles et elles le sont d'autant plus quand elles s'approchent, ce qui n'est pas le cas d'Evelyne Kerr dans Nos Amours, mais elles sont d'autant plus quand elles s'approchent de l'âge de la ménopause, j'ai l'impression. Enfin, c'est très brutal ce que je dis, c'est même plus brutal que ce que. Il n'y a rien d'aussi brutal dans le film. Mais enfin, je crois qu'elles ne supportent pas les amours de leurs filles.
Mais est-ce que justement, son attitude à l'égard de sa fille ne change pas à partir du départ du père? Parce qu'on ne voit pas grand-chose avant le départ,
c'est-à-dire
qu'elle tape dessus après le départ, finalement, non?
Oui, bien sûr que c'est complètement lié. C'est quoi? Évidemment, elle, qui probablement, on le devine dans le film, fait partie de ces femmes qui, je suis persuadée, existent encore, qui sont les femmes avec un seul homme dans leur vie, ou quasiment, elle est encore plus démunie, puisqu'elle n'a même pas l'homme qu'elle avait, disons l'homme de sa vie, à côté d'elle. Donc elle est... C'est encore plus brutal pour elle, j'ai l'impression.
Vous dites « j'ai l'impression », précisément, vous ne savez pas. C'est-à-dire que c'est bien le fait de l'impression.
Non, on ne sait jamais.
Oui, c'est ça, c'est bien.
C'est ça, c'est toujours embarrassant, et ce n'est pas votre cas, là, mais fréquemment, on est vraiment mal à l'aise pour répondre, parce que moi, je l'ai vu dès l'enfance nue, où on me posait des questions comme si j'avais été un psychologue ou même une assistante sociale. Alors, moi, je savais ce que j'avais vu, qui m'avait intéressé, que j'avais pris plutôt de l'intérieur dans ces familles, mais j'étais pas un spécialiste, j'étais incapable de répondre. D'ailleurs, est-ce que les spécialistes disent ces choses? J'ai vu l'autre jour à la télé une psychanalyste, et c'est un peu vache ce que je vais dire, parce que, ceci dit, j'aime pas les psychanalystes, mais elle a fait certainement une bonne pub au film, et je devrais la remercier, mais je trouve qu'elle a dit que des âneries, parce que c'était pas intéressant ce qu'elle disait sur le film. Puis c'était surtout très faux par rapport à mon tournage, elle allait trouver des choses. Je sais bien qu'un film, c'est L'Auberge espagnole, mais enfin...
Non mais justement,
donc elle en savait pas plus que moi, la pauvre femme.
Non mais je voulais en revenir. Moi, c'est pas tellement d'ailleurs la psychologie. Bon, là, on est entré dans la psychologie des personnages et on voit bien d'ailleurs que c'est intéressant parce qu'on vous voit bien comment précisément vous ne tranchez d'aucune façon. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que je savais que ça s'était déroulé. Je savais fatalement puisque j'avais vu les films de Claude Berry que ça s'était déroulé dans le passé. Et moi, il me semble que si ça marche très fort aujourd'hui, si les gens sont tellement touchés par le film, c'est en grande partie, parce que c'est vraiment un film de 83, bizarrement, dans la mesure où 83,
comme vous dites,
on est dans une période où les 30 années qui nous précèdent sont simultanément présentes. Et elles sont simultanément présentes dans le scénario de... Moi, je voulais savoir si c'était un peu conscient au moment du tournage, ça. Elles sont simultanément présentes dans l'action de À nos amours. Je crois que ça me paraît très important.
Vous avez employé le mot conscient?
Oui, conscient.
Oh, conscient, peut-être c'est un grand mot. Disons dans la forme, dans la manière de faire la cuisine, quoi. C'est quand même, n'oublions jamais, la cuisine, un film. Mais je crois que j'étais conscient. Mais ça, je pense parce que il y a des choses qui sont immuables et que je savais que ça existait dans le script d'Arlette et que les rapports entre les parents et puis les garçons tels qu'ils étaient décrits dans le film d'Arlette, bien qu'ils aient changé, en profondeur, ils n'ont pas changé tant que ça. Donc les laisser, je savais que je risquais rien, qu'on se retrouverait.
Les garçons, c'est-à-dire le père et le fils?
Ah non, les garçons.
Oui, les amoureux d'Arlette.
Et puis il y a que je laisse rentrer peut-être justement un peu plus que le font les autres, les interprètes tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne prétends pas qu'ils sont eux-mêmes comme ça dans la vie. D'ailleurs, l'interprète principale, entre autres, elle est sûrement assez différente du personnage qu'elle interprète, mais elle lui ressemble aussi beaucoup. Il semble qu'elle ait une espèce de froideur comme ça, de, comment on pourrait dire, d'inappétence sentimentale, en tout cas. Peut-être pas sexuelle, mais... J'ai même... provoqué par une salle,
le dossier de presse,
dans lequel, vous savez, les difficultés qu'on a à écrire les synopsis, c'est souvent on ne l'écrit pas. Alors on croit qu'il y a certaines phrases de pseudo-synopsis qui seraient de moi et qui ne le sont pas. Et même, je m'insurge sur ce qui est écrit, là, le parallèle entre la sexualité, les sentiments, le fait qu'elle n'aime que ça et tout ça, c'est complètement faux. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Rien ne dit que cette fille-là s'envoie en l'air... D'abord, elle ne s'envoie pas en l'air autant qu'on le dit. C'est ça qui est curieux. Ça conforte mon idée que les films sont bien auberge espagnole. Beaucoup de spectateurs ont l'impression qu'elle est à poil tout le temps dans le film. Or, c'est quelques minutes, et je crois que c'est assez discret.
C'est ça. Alors, on va revenir à la question importante. C'est que ce qui distingue un auteur, un créateur d'un mauvais, c'est le choix des moments. Bon, d'une part, c'est-à-dire de prendre dans la vie des gens ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant. Bon, vous, alors, il semblerait que vous soyez infaillible pour filmer les moments importants et intéressants dans la vie des gens. Alors, ce qui est fabuleux dans Nos Amours, c'est, ce que je voudrais savoir, si le script prévoyait cette façon, cette composition par ellipse si tranchante.
Oh non, sûrement pas, non.
Alors là, je voudrais savoir comment était le script par rapport au film. Qu'est-ce qui s'est passé entre le script et le film?
Je vais revenir au terme de cuisine. J'ai tout simplement débarqué toutes les scènes annexes avec des fois étaient excellentes. J'ai peut-être encore la matière d'un troisième film avec des personnages secondaires, des choses souvent attachantes, et j'ai gardé que le fil principal en introduisant également des scènes qui n'y étaient pas. Par exemple. La scène des fossettes n'existe pas dans le script original. Les scènes de repas de la fin n'existent pas du tout. Puis probablement qu'il y en a d'autres que j'ai oubliées. Mais sans ça, dans l'ensemble, pour le reste, c'est assez proche du scénario d'Arlette.
Il me semble, pour avoir lu le scénario, il me semble qu'il y avait beaucoup plus de continuité immédiate dans le scénario.
Oui.
Mais est-ce que c'était pas parce que ça se passait sur un laps de temps plus court, simplement, ou je sais pas, ça me donne cette impression, alors que là, finalement, il se passe pratiquement 2 ans entre le début et la fin du film.
Dans Les Filles Faubourg, c'était encore plus long.
Oui. Et en même temps, il y avait une beaucoup plus grande impression de continuité au niveau du scénario. Alors que là, si on veut faire attention, on se rend compte qu'il y a des ellipses de 6 mois.
Je veux pas en dire du mal aujourd'hui, mais il était trompeur, ce scénario, parce que j'ai eu aussi beaucoup de difficultés en le tournant, parce qu'il était très agréable à lire, mais je me méfierais beaucoup de scénarios comme ça, et j'espère que j'en écrirai pas moi, parce que c'est vraiment ça. Alors de plus en plus, moi je pense que le cinéma n'a rien à voir avec la littérature, et qu'on est embarrassé comme l'albatros de Baudelaire avec toute cette paperasse, parce que ces scènes qui paraissaient très bonnes à la lecture et qui s'enchaînaient bien au tournage, parce que j'en ai tourné plus qu'il en reste dans le film, elles apparaissaient tout d'un coup maigrelettes. Et puis peut-être aussi que c'est une question de savoir-faire. Moi, je ne cherche pas à enchaîner des scènes qui tombent bien les unes derrière les autres, qui se répondent, qui avec un déroulement comme ça. C'est peut-être une carence, mais j'aime mieux avoir davantage dans une scène en me préoccupant moins de son rapport avec ce qui précède et ce qui suit.
Alors attendez, parce que là on vous prend quand même. Ce que vous dites est étonnant, parce que ce qui est prodigieux dans ce que vous faites, c'est la façon dont ça se contredit. Mais dans ça se contredit sans se compléter. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillerait théoriquement dirait, bon, j'ai fait une scène de violence très 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 forte entre Suzanne, sa mère et son frère. Bon, après, pour montrer qu'ils sont pas aussi ignobles qu'ils sont apparus dans cette scène, je vais les montrer devenant gentils l'un vis-à-vis de l'autre, et puis ensuite je vais en remontrer. Mais pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, j'ai vu le film 2 fois, et je compte bien d'ailleurs le voir un nombre incalculable de fois, mais je crois pas que j'arriverai jamais à savoir comment ce qui se passe. Je parle sur l'écran, pas dans la vie, entre les scènes. C'est-à-dire, le montage a été une période importante pour vous sur ce film, ou bien c'était déjà prévu au tournage, ces ruptures insensées entre les scènes? Parce qu'elles sont insensées, j'ai
prévu, peut-être pas prévu, mais je savais bien que je serais obligé d'en venir là. Mais le montage du film a été très laborieux. C'est pas la première fois d'ailleurs, mais cette fois-ci, ça a pris des proportions. C'est-à-dire que parce que vous savez, on allume les lampions, tout va bien, le film sort, mais on oublie les conditions dans lesquelles il a été réalisé. Ce film a traîné encore pendant 1 an. On a dû arrêter le premier tournage par extinction des feux parce qu'il n'y avait plus de munitions. Et à ce moment-là, moi, j'en avais marre. Surtout venant comme ça, au bout de je ne sais combien d'années, je viens de raconter combien un scénario qui est excellent, c'est insensé qu'il a fallu 10 ans pour tourner ce truc-là. Et encore même pas vraiment le tourner, parce que on pourrait aussi imaginer ce que ça serait, le vrai Fille du Faubourg tourné, se passant en 60 avec les moyens qu'il faut.
Oui.
Rien n'interdit de penser que ça sera un film au moins aussi bon que celui-là, ayant autant de succès. On n'en sait rien.
Revenons-en au montage.
Le montage, je l'ai purement simplement laissé tomber pendant plusieurs mois. J'étais le producteur délégué du film, c'est moi qui avais la garantie de bonne fin, et tout le financement du film, à part une petite participation des FR3, était en crédit, c'est-à-dire on payait des agios tous les mois. Et alors tous les mois, toutes les semaines, il tombait je ne sais combien de dizaines de mille francs nouveaux en agio.
Mais ça veut dire quoi, laisser tomber le montage? C'est-à-dire que
il
n'y a pas eu de montage?
Oh, bah oui, mais enfin, c'est même encore pire, parce que si on l'avait arrêté complètement, on n'aurait pas payé des salaires et des salles de montage. C'était encore pire. Mais voilà, si bien qu'on l'a repris et on l'a exécuté, c'est le cas de le dire, parce que Yann n'a pas été avec le dos de la cuillère, il a pris ça à bras le corps, on l'a monté dans les temps normaux, mais une fois qu'on est traîné avec différentes équipes de montage pendant plusieurs mois.
Bon, non, ça a l'air d'être un coq à l'âne absolu, mais je voudrais parler de la peinture tout de suite. C'est-à-dire que quand on voit certaines toiles de très grands peintres, particulièrement Balthus, puisqu'il est d'actualité actuellement, ou d'autres, on voit des dates 1921, 1927. Bon, un tableau qui a demandé 4-5 ans. Pour une fois, il y a une référence directe à la peinture dans votre film, puisque on en parle deux fois. Suzanne montre une reproduction de Bonnard à un de ses camarades, et à la fin, la discussion porte sur Picasso, et puis Suzanne se contente de dire c'est la seule information qu'on ait sur sa culture. Elle dit « Ah, Bonnard, oui, c'est mon peintre préféré, il est sensuel. » Bon, alors évidemment, je sais que vous avez été peintre. Je sais aussi qu'on n'a pas été peintre, qu'on est peintre et qu'on continue à travailler de la même façon. Moi, il me semble que ce que vous décrivez, à travers vos difficultés réelles, il me semble, moi, quand je vois Nos Amours, et que je ne peux pas m'expliquer, par exemple, la construction, ça n'est qu'un élément, la mystérieuse violence du rapport des scènes entre elles, s'il n'y a pas de votre part une sorte d'élaboration qui ressemblerait à celle d'un peintre devant sa composition, quoi.
Oh, oui, bien sûr, mais enfin, c'est quand même des moyens différents. Et puis, le peintre est quand même quelqu'un, bon, même si on travaille en atelier, c'est différent, mais enfin... Oui, alors, si on peut parler de peinture quand on travaille en atelier, alors. Parce que là, la part de Yann Dedet dans le montage est très importante. De Yann Dedet et d'ailleurs de Sophie Coussin aussi, qui a monté entièrement des séquences importantes du film. Valérie Condroyer qui a... Il y a au moins trois personnes au montage, Dedet, Coussin et Condroyer, qui ont beaucoup apporté dans ce montage définitif, au moins autant que moi.
La vie du film, c'est là que vous avez commencé à l'éprouver, vous, je veux dire, comme premier spectateur au montage, et pendant une période si longue, d'ailleurs.
Bon, évidemment, si on s'en sort, c'est que c'est pas si mal, mais il y a eu aussi le fait qu'on ait tourné en deux fois, et que je suis pas bien content du deuxième tournage, parce qu'il est un peu...
Quelles scènes ont été tournées dans le deuxième tournage ?
Deuxième tournage, ce sont davantage les scènes... Il y a le tournage Paris, il y a tout ce début que j'aime pas beaucoup, qu'on pourrait, à mon avis, presque supprimer du film, ou en tout cas, on aurait pu utiliser le temps passé à tourner ça, à tourner des choses à Paris. Je crois qu'il n'était pas nécessaire d'avoir ce début en province. Et puis, pour la plupart, ce sont des scènes entre jeunes qui ont été tournées. Mais, enfin, en gros, dans le premier tournage, il y a tout le décor principal, ce qui, je crois, est quand même le meilleur du film. Et d'ailleurs... si on avait pu conserver le décor, je me demande si j'aurais pas...
Le décor principal, c'est-à-dire l'appartement et l'atelier de
fourrure. C'est ça, oui. Et je me demande si j'aurais pas tourné un huis clos familial comme ça, avec quand même des entrées, des sorties. Il y avait une séquence où les parents partaient. Enfin, le maire et le frère partaient en week-end, et donc les autres venaient, les jeunes venaient occuper l'appartement. Je pense que j'aurais tourné quelques rares extérieurs... Peut-être j'aurais mis à l'intérieur du film cette répétition de Musset, mais qui aurait représenté la partie des études qu'on voit jamais, et on l'aurait vu à travers ça. Je pense à des scènes de gymnase, de piscine, tout ça. On aurait juste eu ça, et puis tout le reste aurait été la famille. Et c'est pour ça il aurait fallu des moyens que j'ai pas eu pour retourner, parce que là, ce que je reproche à ceux qui ont travaillé avec moi financièrement, c'est que devant les résultats quand même prometteurs du premier tournage, surtout la chance de l'interprète principal qui était un gage de succès, ça se sentait gros comme une montagne, je comprends pas, alors qu'on va donner des dizaines de millions à finir des gros naftons, qu'on n'ait pas donné au moins le double de ce que j'ai eu pour retourner, parce que je retournais avec des semaines, avec la moitié du budget qu'il faut pour faire une semaine, et on s'en sort pas, on peut pas... J'essaie par tous les moyens, je veux tourner trop, je passe une journée où il m'en faudrait deux ou trois, et puis ça fait les petits trucs...
Ceci dit, Musset, donc, ce que vous dites, je retiens de ce que vous dites là à l'instant, quelque chose d'important, c'est que Musset, il fallait que cette scène soit là. Il fallait que ce soit dans le film.
Mais pas sous cette forme.
Mais c'est très beau, hein, parce que quand même, je veux dire deux choses, quand même, qui me paraissent. Alors, d'une part, le choix que vous avez fait de montrer Sandrine Bonnaire dès le début, disant le texte de Musset, et le disant avec une manière un peu crispée, un peu, et où elle n'est pas d'ailleurs sympathique, quand elle répond, elle est même à la limite de
comme le personnage de Camille, hein, d'ailleurs.
Oui, bon. Et ensuite, il y a la scène où alors soudain, et on s'aperçoit qu'elle est bonne comédienne, que le personnage de Suzanne est une bonne comédienne potentielle dans le film, et la scène est magnifiquement belle, douce, enfin c'est Musset comme on rêve qu'il soit vraiment joué, quoi, avec cette fraîcheur là, avec cette sincérité là. Alors moi je voudrais savoir quelle est la place de ces dans le film.
Musset, c'était tout simple, c'est que je savais, et ça, je sais pas si ça se produit pas cette fois-ci en grâce en partie à Musset, à mon avis non, parce que c'était difficile de l'attaquer, mais vous savez ce que c'est quand on a confiance en quelqu'un, qu'on lui attribue beaucoup de talent, on pense toujours qu'il y aura des critiques, et je les connais, les critiques qu'il y a pour les comédiens débutants. On parle d'amateurisme, de gens qui connaissent pas leur métier, ceci et cela, ou alors une des rengaines bien connues, c'est oui, d'accord, celle-ci ou celui-là, ils sont bien dans ce rôle-là, parce que ils sont comme ça dans la vie, ils seraient pas capables de jouer autre chose. Et j'ai voulu, par le choix de cette interprétation théâtrale, montrer que c'était quelqu'un qui était tellement doué qu'elle pouvait jouer. Parce que moi, à mon avis, c'est dommage que ce soit si court. Je pense que beaucoup d'actrices du français ou d'ailleurs pourraient souhaiter de jouer Musset de cette façon-là. Donc ça prouve qu'elle est douée. Et ça coupe court, ça coupe le sifflet à tous ceux qui voudraient dire qu'elle sait.
Pourquoi le choix ? Non, bon, une seule question. Pourquoi le choix de l'avoir présentée tout de suite comme ça, dès le début du film, que 10 ans ? C'était prévu d'avance ? C'était prévu dans le scénario ?
Ça ne devait pas venir immédiatement, c'était quelques séquences plus tard, mais enfin dans les tout débuts de toute façon. Oui. Ça a bougé d'ailleurs, à un moment c'était un peu plus loin, c'était pas dans les premières images.
Et pourquoi tout de suite ?
Parce que j'étais obligé de monter plus sec et je manquais de matériel, et c'était ça ou le sucrer, ou le supprimer. Enfin, à notre avis, au montage.
Donc ça, ce serait trouvé dans le film de toute façon, tel que... Vous l'auriez conçu autrement.
Vous savez qu'on peut toujours rêver de refaire quelque chose. Si on a envie de refaire quelque chose, ça prouve qu'on y tient encore. Je répète, si je retournais le film aujourd'hui, ça serait dans l'année scolaire, comme ça arrive, je crois, encore aujourd'hui, dans notre époque d'analphabétisme crasse. On doit quand même encore, j'espère, au lycée, faire des représentations, monter des classiques. Et c'est ce que j'aurais fait, je l'aurais glissé dans le cours du récit. Ça, si vous voulez, ça serait venu ponctuer comme ça l'est dans Vivement Dimanche, par exemple. Hugo, c'est bien Hugo, je crois.
Oui, Caroline.
C'est drôle parce que vous voulez récupérer quelque chose qui, moi, m'apparaît très important dans le film. C'est ce passage, parce que pour l'avoir vécu, c'est ce passage des grandes vacances à l'année scolaire. Mmh. Et que le glissement, et que comme par hasard, la première fois où elle va coucher avec un homme, le plan d'ailleurs est exceptionnel, parce qu'on ne voit pas que l'homme est au-dessus d'elle à ce moment-là. On ne voit que son visage, un petit peu hébété, un petit peu tendu, on ne sait pas ce qui se passe, et tout d'un coup, il y a le profil ombre chinoise de cet homme qui est au-dessus d'elle et dont on sait qu'il l'a prise, qui se dessine. Mais ça se passe à des moments frontières, justement, pour ce genre de jeune fille, ça se passe pendant les grandes vacances.
C'est
drôle parce que vous voulez récupérer quelque chose qui, vraiment, je crois que si ça nous bouleverse autant, c'est que il y a un moment donné, on est tous passer par ces périodes frontières-là.
Oui, non, ce que je trouve, c'est que c'est trop elliptique dans le film. Mais je me trompe peut-être, parce que quand on voit l'accueil du public, l'ellipse, c'est écriture rapide, ne serait-ce que par la pub.
La pureté, on la perd pas en ville, parce qu'il n'y a pas de pureté en ville.
On reçoit peut-être le film plus vite que je le pense. Moi, en tout cas, je sais que beaucoup de spectateurs trouvent que le début est pas très clair, quoi.
Il est peut-être pas clair à la compréhension, il est époustouflant pour les sens. Je suis sûre que l'avoir montré dans l'eau, avoir montré son frère la désirer, la montrer jambes quasiment nues à l'avant de ce bateau comme une figure de proue, ce qu'elle est pendant tout le film, et ce qu'elle est presque quasiment pour une génération. Parce que c'est vrai que si une génération aujourd'hui se reconnaît dans Sandrine Bonnaire, il s'agit d'une figure de proue. je crois que ça parle au sens. Alors, peu importe que les gens comprennent ou pas, je crois qu'ils le ressentent très, très violemment. Et ce passage à l'urbanité, au cocon de la famille, et puis au fait qu'elle a laissé quelque chose en vacances, c'est rudement important.
Espérons que beaucoup penseront comme vous, parce que, enfin, on peut quand même penser que ça aurait pu être mieux, quoi.
Mais vous pensez, et vous parlez beaucoup de penser et comprendre, et la chose évidente, c'est la même chose pour Claude, c'est que devant votre film, on ressent, on a un nombre de sensations et de perceptions.
Mais Bonnard, parlons de Bonnard, qui sont démultipliées
par rapport à d'autres cinéastes.
Parlez de Bonnard, Maurice Pialat.
Ah ben j'aime beaucoup Bonnard, mais c'est pas mon peintre préféré. C'était sans doute celui d'Arlette, et ça l'est probablement toujours. Mais oui, la sensualité de Bonnard. Les peintres sont sensuels.
Attention, enfin, bon, tout de même. Entre vous et Bonnard, il y a quand même quelque chose de précis. C'est que Bonnard traverse l'histoire de la peinture en se moquant de tout, en se moquant des écoles, des mouvements, des critiques. Il poursuit obstinément une route qui est vraiment seulement la sienne. Or, il semble bien que ce soit votre cas. Vous n'appartenez pas à la nouvelle vague au sens de
l'école. Il avait quelques amis, Bonnard. Ils étaient deux, trois, quoi.
Oui, mais il semblerait que vous creusiez une route semblable, dans le cinéma de ce siècle.
Ben, je ne sais pas, ça, je ne m'en rends pas compte.
Et la perception, la sensation, est-ce que vous, quand vous... faites un plan, faites bouger les gens. Est-ce que vous savez que vous parlez au sens? Parce que ça, cette histoire de comprendre et tout, je crois qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose chez vous, là. Je voudrais savoir si vous savez que vous parlez à nos...
Pierre, il sait tout, mais il dira rien, à mon avis.
Non, mais demandez ça à Donadieu, puisqu'il m'a vu travailler pendant une semaine. Et... il sait bien quel... D'ailleurs, je ne suis pas le seul et le dernier. Quel foutoir et n'importe quoi.
Oh, c'est pas vrai. Non, il y a en tout cas une intensité sur un tournage avec Pierre qu'on rencontre rarement. C'est-à-dire que chacun est totalement mis en cause et se retrouve à son maximum d'intensité à cause de Piala, c'est-à-dire qu'à cause du regard, de la présence de Piala. Donc tout ce qui se passe sur la sensation, ça se passe dès le tournage, c'est évident. En même temps, c'est une chose que Maurice fait absolument naturellement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de... C'est comme ça qu'il vit, c'est comme ça qu'il travaille. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinairement élaboré, il n'a pas besoin d'être extraordinairement élaboré, ça lui pose pas de problème, ça vient absolument comme ça, tout seul.
Bon, quand même, alors, question importante, puisque ça vient au fond, en conclusion de ce qu'il dit. Il y a un moment où les metteurs en scène se mettent à eux-mêmes dans leur champ. Hein. C'est-à-dire, on sait les ennuis que ça a valu à Renoir au moment de la règle du jeu, etc. On sait que Truffaut le fait, on sait que Godard le fait, peut-être pas d'ailleurs pour les mêmes raisons, et puis voilà que vous le faites. Et que vous le faites à un endroit du film, quand même, beaucoup plus que stratégique, à un endroit qui est le nœud du point de vue de l'émotivité, tout simplement, où jouer le père. Alors, je voudrais savoir à quel moment vous avez décidé de jouer.
Ben, pratiquement le jour ou la veille de la première scène qu'on a tournée ensemble, je ne sais plus laquelle c'est. Je ne sais pas par quel.
Mais il y avait un autre acteur, c'est prévu ?
Oui, on avait fait des essais, des gens qui étaient pas mal d'ailleurs. Pas des comédiens, mais il y a deux ou trois. Non, il y en a eu qu'un qui a essayé, un agent immobilier qui était très bien d'ailleurs.
Vous vous donnez le beau rôle ?
Non,
parce que c'est un très beau rôle.
Mmh. Non, je trouve pas.
Est-ce que. Non, vous aimez pas le rôle ?
Non, je veux dire, il se donne pas le bon rôle au sens traditionnel. Enfin,
il y avait quand même l'idée de jouer le rôle du père depuis longtemps. Oui, tu avais ça dans la tête.
Quand même.
Tu hésitais beaucoup.
Oui.
Parce qu'il n'est pas entièrement, absolument sympathique non plus ce personnage.
Non. Je me trouvais un peu trop âgé pour le jouer. J'aurais préféré Evelyn Kerr à pratiquement 10 ans de moins que moi, enfin peut-être même plus.
Ça passe très bien.
Ça peut aller, mais j'aurais préféré que ce soit un homme de 10 ans plus jeune quand même qui joue le rôle.
Bon, maintenant c'est fait.
Comme disait justement Toscan du Plantier, laissons le troisième âge. c'est presque un grand-père dans le film quand même. Ce serait mieux qu'il ait 10 ans de moins. Donc déjà il y avait ça, mais je voyais pas qui pouvait le faire, mais... Peut-être justement cette image paternaliste au second degré, ça déplaît pas, parce que c'est vrai qu'il est à la fois père et grand-père un peu dans le film. Oui, par rapport à la fille...
Plus que père et grand-père, parce que si, comme il part, il est homme. C'est difficile de faire un homme d'un père. Et là,
moi d'ailleurs, là, n'ayant pas eu d'enfant, je pensais que je ferais un père tout à fait...
La grande scène où elle dit...
Incroyable. Parce qu'on ne dit pas incrédible, je pense, incroyable. Mais il faut croire que non.
Il faut croire que non. Alors, bon, ce qui me fait penser à une chose, c'est cette scène qui est quand même une scène, puisque vous l'avez mis dans votre, vous avez mis le texte dans votre dossier de presse, c'est que vous y tenez un peu, cette scène, la scène des fossettes, qui est dans le temps une scène privilégiée, puisque c'est déjà une heure impossible. C'est-à-dire, c'est une heure où rien ne se passe entre les gens, et, ou alors quelque chose se passe vraiment. C'est-à-dire, quelqu'un rentre tard, quelqu'un a travaillé tard le soir, il y a tout le poids du travail sur lui déjà, enfin, tout le pouvoir de la solitude, des heures qui ont précédé, et elle vient d'un tout autre endroit avec. Et ils ont pensé l'un à l'autre fatalement, un peu, puisqu'ils sont père et fille, etc. Et il se passe quelque chose de rare dans cette scène, mais avec tout de même des choses qui nous sont cachées et dont on se prive volontairement. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi ne dites-vous pas, ou ne faites-vous pas dire à votre personnage, pourquoi vous partez ?
Ah oui.
Oui, pourquoi ? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est caché, mais
parce que le départ, c'était un autre départ. Oui, l'été devait mourir. Et c'était.
Mais il y a quelque chose comme ça. C'est resté dans le film étrangement.
Oui, oui.
C'est resté dans le film. C'est...
Et quand on tourne la scène, on ne sait pas encore si, puisqu'on m'a demandé, il y a eu une interruption, on a tourné d'autres choses. J'ai réapparu probablement 2-3 semaines après dans les scènes suivantes. Avec moi, et les assistants autour de moi me disaient « Alors, le père, qu'est-ce qu'on en fait ? Il meurt toujours ?» Et je feignais.
Pourquoi il sait, vous l'avez joué à sa chambre ?
C'est-à-dire qu'il pouvait très bien s'arrêter à cette scène-là, et on aurait appris qu'il était mort, ou on aurait peut-être tourné une scène délicate, d'ailleurs, où on l'aurait vu, si pas en train de mourir, mais...
Malade,
non, il n'y avait pas de scène où il était malade, il y avait juste une scène, non, en fait, on ne le voyait pas, elle rentrait chez elle, l'équivalent de la scène où elle rentre et son frère lui dit, papa nous a quittés, elle rentre, ouais. Oui, c'est ça.
Ça veut dire qu'il est mort.
Mais là, c'était pas comme ça que cette scène devait être tournée, elle devait rentrer chez elle et le médecin était là. Elle venait de dire dans une scène précédente à un petit copain que son père gueulait, qu'il était malade, qu'il gueulait dans l'appartement. Et elle rentrait, il avait une crise donc foudroyante, puisque le médecin était là et il préparait les papiers pour le faire transporter à l'hôpital. On ne voyait que ça et après on savait qu'il avait...
Mais c'est ça qui est très étonnant, c'est que dans ce que vous n'avez pas tourné, il y a un tel effet de densité dans Nos Amours que ce que vous n'avez pas tourné est dedans, secrètement. Mmh. Par exemple, vous dites, j'ai pas tourné les scènes avec les filles, il y avait beaucoup plus de personnages féminins, c'était beaucoup plus important. Ça s'appelait d'ailleurs Les Filles du Faubourg, donc je pense qu'il y avait toute une bande de filles, avec des histoires chacune, mais... D'une certaine façon, on les sent, ces histoires. Je ne sais pas comment vous faites, en ne montrant que très très peu de choses, des scènes banales dans un bistrot, deux filles dans un lit en train de parler, l'une qui rentre de je ne sais pas quoi, de l'école, et qui se couche avec sa copine. Pendant ce temps, le père arrive et dit « c'est pas bien ça, qu'est-ce que vous faites ?» Et on a l'impression que, je sais pas, qu'il y a un effet de densité tout à fait prodigieux. Alors, comment est-ce que vous y arrivez ?
Moi, j'ai un truc.
C'est pas...
Il me semble que dans les films généralement on ne parle pas de ce qu'on n'a pas vu déjà, alors que là on n'hésite pas du tout. Par exemple, la scène où elle parle avec Luc, où Suzanne parle avec Luc de Courchevel. Le moment où j'étais plus heureux, c'était Courchevel. On a failli, je sais plus quoi, avoir un accident.
C'est pour ça que j'ai voulu mourir avec toi sur la luge.
Généralement, quand on parle d'une scène comme ça, quand il y a une scène comme ça dans un film, on a vu la scène dont il est question. Ce qui est étonnant là, c'est qu'on parle de choses absolument réelles qu'on a absolument pas vu, qui sont complètement gommés, c'est-à-dire qu'on parle de tout ce qu'on n'a pas vu, malgré tout.
Moi, je pensais souvent à un moment qu'il était souvent plus fort de parler de la scène que de la montrer, mais enfin, il y a un exemple, c'est dans Romer, dans la Ma nuit chez Maud, là, quand Fabian, dans une bonne scène, raconte comment elle a perdu son mari, je crois, et je trouve que c'est mieux que si on l'avait vu, évidemment,
Ben oui, mais c'est la fameuse histoire de John Ford, de la bataille d'Henri Fonda. Le scénariste demande, le producteur demandait, mais alors quand est-ce que vous tournez la bataille ? Jusqu'à la fin du tournage, et finalement Ford dit, mais Fonda, tu connais le texte de la bataille, assieds-toi, je te filme. Raconte-la, dire que Fonda a même, je crois, improvisé le texte, d'après le scénario. Il a raconté, tu es fatigué, tu viens de la bataille, raconte-la. Et c'est beaucoup plus fort.
Et c'est dans quel film, ça ?
C'est dans... Oh. Là, sinon, j'oublie toujours le titre, je ne sais pas pourquoi. Mais je le retrouverai facilement.
Moi, une question aussi sur le fait que le père devait mourir. Une des choses qui vous intéressait beaucoup, c'était l'émotion de la fille au moment de la mort du père. Et donc, le film était beaucoup du côté, au niveau du scénario, du côté des rapports du frère et de la sœur, et finalement très peu du côté des rapports du père et de la fille, sinon dans cette émotion. Donc, cette émotion, elle n'est plus là, et ce rapport frère-sœur, il disparaît un petit peu aussi.
Oui.
C'est quelque chose que vous avez voulu en cours de tournage.
Bah oui, parce que quand même il fallait. Oui, enfin, je vais encore dire c'est un palliatif, mais
palliatif par rapport à quoi?
Non, le père servant de palliatif, c'est ça, en quelque sorte, non?
Oui, enfin, moi je trouve que quand vous êtes sur l'écran, c'est absolument formidable, qu'il y a
un palliatif formidable.
Une intensité à ce moment-là, je reviens à ce mot d'intensité, parce que c'est ça qui se passe. Et ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que dans tous vos précédents films, alors, l'intégralité de vos films, toujours, ce qui a été bouleversant, c'était le poids de souffrance qu'il y avait dans les films. Genre quand on sortait des films, la gorge serrée, que ce soit aussi bien Loulou que Passe ton bac tous, ne vieillons pas, n'en parlons pas. C'était absolument toujours ça. Et dans ce film-là, c'est plus du tout ça. Alors que moi, je sens plus du tout la gorge serrée que j'ai pu ressentir dans les précédents. Et je sens au contraire quelque chose qui est beaucoup plus du côté de... Comme si vous aviez filmé quelque chose de votre désir davantage dans ce film. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que le tournage, c'est d'ailleurs le seul qui était assez calme quand même. Même très calme. Il n'y a pas eu d'histoire sur ce tournage. Il y avait des problèmes d'argent, c'était toujours ennuyeux, mais enfin, c'est pas... Moi, l'argent, ça me fait pas... Ça m'empêche pas de dormir.
Je dis ça aussi en fonction du rôle du père, du fait que vous soyez dans le film, vous, peut-être que vous avez eu besoin de vous mettre dans le film.
Mais il semblerait, même quand... Enfin, si un jour, on fera peut-être on montrera peut-être ensemble les émissions qu'on a fait avec vous depuis que se passe ton bac. On en a fait 3 ou 4, déjà.
Oui, je viens souvent.
J'espère bien. C'est-à-dire qu'on vous en retient. C'est que vous apparaissez infiniment plus tranquille, quand même.
Oui, je suis peut-être moins agressif quand même, oui.
Il y a la phrase de Van Gogh, là, la tristesse durera toujours.
Oui, mais même ça, je la sors plutôt comme une...
C'est pour les autres.
Oui, comme une culture, plutôt que... En fait, on a parlé de règlement de compte, mais c'est presque... ça vient presque trop tard, quoi.
Sauf qu'il y va de l'apprentissage de la tristesse dans le film. Mmh. Elle fait l'apprentissage de la tristesse. Elle, Sandrine...
Oui, c'est pas à ça que je pensais vraiment. La tristesse, c'est... Mais même, en fait... moi, triste, c'est synonyme de bêtise ou de méchanceté, pour moi, triste. Et je pense que la plupart de nos contemporains, et surtout ceux qui gravitent dans nos professions, ils sont vraiment tristes, mais d'une certaine façon, je m'en fous maintenant. Je vois même que je vais avoir des problèmes parce que j'ai écrit sur ce sujet. J'en passais donc une petite partie, là, comme ça. J'ai vraiment écrit un truc règlement de compte et je me demande si je le tournerai jamais parce que, à la limite, c'est pas intéressant. Ça sert à rien de vouloir se venger ou régler ses comptes. Il se règle. Moi, je pense que les comptes se règlent tout seuls. Il suffit d'attendre et d'être toujours là, quoi.
Oui, mais il y a d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a un personnage tout à fait merveilleux et qui est le personnage du jeune homme et qui, lui, sait les choses sur Picasso par rapport au crétin pontifiant qui dit n'importe quoi. Et lui, à partir du moment où il sait des choses, il parle très, très calmement, il parle très, très tranquillement.
Oui.
Ça ne s'est pas passé comme ça.
Je regrette que son rôle ne soit pas plus long parce qu'il est très bien Cyril Collard dans le film. Il a eu des difficultés pour jouer les premières scènes, mais il était très bien. Je trouve de loin le plus attachant des personnages masculins jeunes, quoi, du film. Puisque les vieux s'en paraît-il si bien. Puis il y a Dominique Bénard, dont vous ne parlez pas.
Oui, qui joue le rôle du frère, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Il est génial.
Oui. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il
y a. Il y a un côté Michel Simon.
Il devrait laisser le casting là.
C'est quelqu'un qui fait du casting,
oui,
c'est
oui,
ça.
C'est
qui s'occupe de distribuer des rôles à d'autres acteurs. Comment vous avez eu envie
Je connais Dominique avant même qu'il ait commencé, parce que justement, je crois qu'il le rappelait l'autre jour, il a commencé avec Doyon sur Un sac de billes. Donc je le connais d'avant, Dominique, ou à peu près en même temps. Et quand on a pensé à ce rôle, on avait fait quelques essais intéressants. D'ailleurs, à un moment, Berroyer devait le jouer, et c'était très intéressant, Berroyer dans le rôle du frère. Tiens, je profite l'occasion, je ne sais pas s'il écoutera l'émission, mais je m'en excuse auprès de lui, parce que ça s'est pas fait, alors que j'aimerais beaucoup, et ça se reproduira peut-être, tourner avec lui. Mais je pense qu'il était un petit peu âgé pour jouer le rôle du frère, parce que ça allait avec moi comme père, mais c'était le rapport avec la fille, il aurait presque pu être le père de la petite. Alors et puis donc il y avait cette possibilité de le faire avec Bénard, et quand il a fait les essais, c'était tout de suite très convaincant.
Bien, écoutez, on a envie de parler encore avec vous longtemps de À nos amours. Alors, la seule chose, enfin, ce qui ressort de tout ce que nous avons dit, c'est qu'il faut aller voir le film. C'est très clair. Je veux dire que pour ceux, je présente nos plus profondes excuses à ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que ils ont peut-être risqué d'être un peu perdus, mais enfin, j'espère suffisamment intrigués pour avoir envie d'aller le voir. Alors, ceci dit, nous, c'est la preuve, cette émission est la preuve absolue qu'il ne faut pas seulement parler, laisser passer un entretien avec un cinéaste pour parler de son film, parce qu'il ne dit pas tout, et puis il n'y a pas de raison qu'il dise tout. Et que,
il parle d'un autre film.
Il parle.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 novembre 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture.